et qu'il t'aime.
Merci pour ce rappel de la bénédiction, des bienfaits de notre Dieu, de sa volonté de paix. Nous voulons maintenant ouvrir la parole du Seigneur et la méditer ensemble. Il est bon pour nous de pouvoir le faire. Nous sommes depuis longtemps dans l'étude du Sermon sur la montagne, ce grand discours que Jésus a adressé à ceux qui veulent marcher comme ses disciples. Et je vous invite à lire dans Matthieu au chapitre 7. Alors nous allons lire les versets 1 à 11. Nous reprenons la lecture des 5 premiers versets pour la mise en contexte, mais nous méditerons à partir du verset 6. Matthieu chapitre 7. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. C'est du jugement dont vous jugez qu'on vous jugera, de la mesure dont vous mesurez qu'on vous mesurera. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil à toi? Ou comment dis-tu à ton frère, laisse-moi enlever la petite paille de ton œil, alors que dans ton œil à toi, il y a une poutre? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas ce qui est sain aux chiens. Ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent pour vous déchirer. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel homme parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui les lui demandent? Jusqu'ici, notre lecture. Nous découvrons ici un Jésus qui est tout sauf linéaire dans sa manière de s'exprimer. La fin du sermon sur la montagne est constituée de plusieurs petites unités, pas toujours faciles à relier entre elles et à unifier. Ici, par exemple, nous avons passé dans nos lectures et dans notre écoute d'une invitation à ne pas nous ériger en juges de nos frères, et l'on passe à une parole qui comporte un jugement très fort sur des personnes qui sont traitées de chiens ou de pourceaux. Et à peine remis du choc, nous découvrons une image, cette fois-ci pleine de tendresse et de simplicité, pour nous parler de notre liberté de relation avec Dieu, notre Père céleste. Pas facile à suivre Jésus. Pas facile à suivre, et pourtant, ne vivons-nous pas ce zapping d'une chose à son contraire dans le cours de notre vie? Tenez, peut-être que pas plus tard que ce matin, certains d'entre vous, avant de venir au calme dans la maison de Dieu pour recevoir la bénédiction du Dieu de paix, peut-être que certains d'entre vous avaient connu un stress pas possible dans votre maison à cause d'un mot de travers, d'un enfant qui traîne, d'une chemise mal repassée, d'une voiture qui n'a pas démarré tout de suite. Qu'il y ait des contrastes dans l'enseignement de Jésus nous rappelle les contrastes qu'il y a dans notre vie à nous aussi. Qu'il y ait des moments plus sereins dans son enseignement nous invite à dégager pour nous aussi des îlots de sérénité au sein de ce qui bouscule parfois. Alors commençons par ce qui heurte dans notre texte. Jésus, après nous avoir demandé de ne pas juger, nous parle de personnes qu'il compare à des chiens ou à des porcs. On n'ose presque pas le dire et pourtant c'est quand même cela ce que dit Jésus. Alors les chiens dont Jésus parle, ce ne sont pas les gentils toutous compagnons domestiques que nous pouvons avoir chez nous. Mais dans son esprit, c'était des chiens errants qui se nourrissaient des déchets dans les villes, dans les villages. Et voilà les appellations bien peu flatteuses et même dures pour des personnes, les traiter de chiens, les traiter de pourceaux. Des jugements très nets sur ces personnes de la part de Jésus. qui pourtant avait invité à ne pas juger, à ne pas avoir cette attitude-là. Jésus a usé parfois d'un langage fort à l'égard des personnes. Il traite Hérode de renard pour dénoncer sa malhonnêteté. Il compare les pharisiens hypocrites à des sépulcres blanchis, beaux au dehors, mais pleins d'ossements et d'impuretés à l'intérieur. Jésus n'avait pas sa langue dans sa poche lorsqu'il s'agissait de dénoncer le mal là où le mal était criant. Et cela confirme le sens de son invitation à ne pas juger. Jésus ne condamne pas l'analyse ou la lucidité, mais il refuse à ses disciples une attitude de jugement qui manquerait de bienveillance et d'humilité, une attitude de jugement qui se poserait au-dessus des autres, ce qui grossirait les détails infimes comme un petit copeau dans l'œil de l'autre, sans voir que le problème réside alors dans notre regard à nous. Comment Jésus peut-il comparer des gens à des chiens ou à des pourceaux ? C'est par effet de contraste. Il veut dire qu'il y a des personnes qui ne méritent plus des choses saintes dont il parle là, des choses de valeur, comme des perles. Et donc il oppose à ces choses saintes ou à ces choses de valeur ce qui est réputé impur. Ne donnez pas des choses saintes à des gens qui seraient pas à la hauteur de cela, qui seraient manifestés comme des gens impurs. Et c'est pour ça qu'il les compare à des chiens. Ou des perles de valeur à ceux qui les souilleraient, comme un porc qui se roule dans la boue. C'est pour cela, c'est par opposition que Jésus choisit ce langage. Il veut parler de gens qui ne méritent plus qu'on les gratifie de toutes sortes d'égards magnifiques. L'apôtre Pierre aura un langage assez proche en parlant de gens dont la conduite montre que leur prétendue foi chrétienne n'était qu'un vernis. Il leur est arrivé, dit-il, ce que dit le proverbe, « Le chien est retourné à son vomissement, la truie à peine lavée va se vautrer dans le bourbier. » Une façon de dire que leur nature n'a pas été vraiment renouvelée et qu'elle est tout sauf reluisante. À partir de quand peut-on parler de quelqu'un de cette façon-là? Ça ne peut jamais être un jugement a priori. Ce serait contraire à tout ce que Jésus a enseigné, à tout ce que Jésus a manifesté. Jésus a eu soin toujours de montrer l'accueil et l'amour de Dieu, même à ceux que tout le monde cataloguait justement comme de grands pécheurs. Zachée, la femme adultère, des gens de mauvaise vie, Jésus les a fréquentés, Jésus les a accueillis, Jésus les a aimés, Jésus les a relevés, Jésus les a transformés. Il ne les a pas juste balancés d'une formule en disant « Vous des chiens, vous êtes je ne sais trop quoi ». Pareillement, Jésus a montré et enseigné qu'il accueillerait toujours celui ou celle qui viendrait à lui en reconnaissant ses manquements, en reconnaissant ses fautes. « Je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi », a dit le Seigneur Jésus. Et dans la parabole qu'il a composée pour dire cet accueil du Père, la parabole dite du Fils prodigue, le Père relève son Fils repentant, qui a demandé d'être traité comme un simple serviteur. Il dit « Non, tu es mon fils, je te reçois de cette façon-là ». Voilà le message de Jésus, voilà l'accueil de Dieu. Dieu ne tient donc pas à distance celui qui reconnaît son péché, celui qui reconnaît ses manquements. Il ne lui colle pas une étiquette définitive, mais au contraire, il est un Dieu qui fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Mais ce Dieu qui fait grâce aux humbles est aussi, nous dit la parole de Dieu, un Dieu qui résiste aux orgueilleux. Et c'est ici que réside la clé de notre texte. Les chiens, les pourceaux, sont ceux qui ne méritent plus qu'on leur présente de bonnes choses, parce qu'ils les ont déjà méprisés, parce qu'ils les ont déjà rejetés, parce qu'ils les ont déjà bafoués. Et vient un moment où non, il serait injuste de leur permettre d'encore plus bafouer, d'encore plus dénigrer ce qu'on leur a déjà présenté. Et Jésus invite là à marquer une limite. À quoi s'applique-t-elle cette limite ? Cela demande du discernement. En ce qui concerne l'Évangile, qui est la perle de grand prix, nous sommes invités à le présenter, cet Évangile, sans nous lasser, à ceux qui nous entourent, qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas. C'est notre mission, même à l'égard de ceux qui peuvent paraître les plus fermés, les plus endurcis. Nous avons à parler, nous avons à prier, nous avons à aimer ces personnes avec persévérance. Pas question donc de dire que parce que quelqu'un aurait refusé l'Évangile une fois, deux fois, qu'il ne mérite plus qu'on le lui présente. Que serions-nous chacun sans la patience de Dieu ? Que serions-nous chacun sans la patience de Dieu ? Par contre, si quelqu'un se sert systématiquement de ce que nous lui disons lorsque nous lui présentons l'Évangile, s'il se sert de cela systématiquement pour traîner l'Évangile dans la boue, pour dénigrer la foi chrétienne, vient un moment où il ne serait pas juste de lui présenter encore sur un plateau ce qu'il jettera dans la boue. Il ne serait pas juste de l'encourager dans son attitude arrogante. C'est alors qu'il faut marquer une distance qui vaut réprobation, une limite qui marque la dignité de l'Évangile et qui affirme la responsabilité de la personne dans sa mauvaise attitude. Cela n'empêche pas de prier pour cette personne tout en veillant à ne pas lui donner l'occasion d'affirmer, de renouveler son arrogance. Voilà pour l'application de ce texte de Jésus à la présentation de l'Évangile, la perle de grand prix. Mais on peut appliquer probablement cette parole à d'autres situations. Quelqu'un a plusieurs fois trahi notre confiance, alors que nous essayons d'être honnêtes et transparents à son égard. Cette personne ne mérite plus que nous lui fassions toutes sortes de confidences. Une distance est légitime. Quelqu'un a plusieurs fois abusé de votre générosité. Vient un moment où il est légitime de dire stop. Quelqu'un joue avec vous, avec votre gentillesse, votre bonne foi, vos principes chrétiens, pour faire du mal, pour vous faire du mal, pour se moquer de la foi, se moquer de vos valeurs. Il est légitime à ce moment de dire stop. Pas question de laisser ce petit jeu se continuer, pas question non plus de l'alimenter. Lorsque Jésus a envoyé ses disciples en mission, il les a avertis que certains accueilleraient, que certains les accueilleraient, que d'autres les refuseraient. Si l'on ne vous accueille pas, dit-il, si l'on n'écoute pas vos paroles, en quittant cette maison ou cette ville, secouez la poussière de vos pieds, dit Jésus. Vient un moment où il est légitime de dire ton refus, ton rejet, c'est ta responsabilité, et de savoir le signifier de cette façon-là. Nous voilà donc appelés à la lucidité. Tout n'est pas rose dans le monde. Tout n'est pas rose dans nos relations. Nous avons bien sûr d'abord à veiller sur nous-mêmes pour rester bienveillants, pour rester équitables dans nos jugements. Mais devant l'arrogance, devant le mépris, devant la moquerie des choses saintes, il y a place pour une attitude qui refuse d'encourager ce mal et qui renvoie clairement l'autre à sa responsabilité. Difficulté, exigence donc de certaines relations, et Jésus ne le cache pas. Mais Jésus nous dit aussi, et c'est un beau contraste finalement, qu'auprès de Dieu, notre Père, auprès de lui, nous pouvons découvrir une belle relation, une relation de confiance, une relation de liberté, une relation de demande. Dieu ne nous tient pas à distance. Au contraire, il nous accueille, y compris lorsque nous sommes en demande. Et c'est une première chose que nous dit ce texte où Jésus nous encourage auprès de notre Père à demander, à venir, à frapper à sa porte, à chercher. Jésus nous encourage à avoir cette liberté de relation avec notre Père, cette liberté de demander et de demander à Dieu. Demandez, cherchez, frappez à la porte, nous dit Jésus. Ces trois verbes ne disent pas tout à fait la même chose, nous allons y revenir, mais ils vont dans le même sens et se renforcent. À chaque fois, il y a un besoin. Demander nous invite à nous adresser directement à Dieu. Chercher implique toute une démarche personnelle engagée vers ce quoi on aspire. Frapper évoque une certaine insistance qui ne se laisse pas arrêter par un obstacle. Mais nous voilà autorisés, nous voilà invités à la demande. Et dans quelle optique ? Jésus nous donne la perspective en nous dressant la figure de Dieu comme un Père bienveillant. Dieu veut être pour nous comme un Père, plus engagé pour nous que le meilleur des pères humains. Voilà la liberté à laquelle Jésus nous invite. Nous avons la liberté de demander. Demandez, nous dit Jésus, et l'on vous donnera. Un Père bienveillant n'est pas insensible à un vrai besoin de son enfant. Il est heureux de pouvoir faire quelque chose. Il serait malheureux que son enfant n'ait pas osé lui parler d'un souci, d'un besoin. Et c'est ainsi que Jésus nous invite à voir notre Père céleste. Tout le contraire d'un Dieu inatteignable, d'un Dieu lointain, d'un Dieu distant, d'un Dieu indifférent, mais bien plus un Dieu attentif, un Dieu concerné, pleinement concerné par nous, jamais indifférent à notre égard. Ce qui nous touche, le touche. Ce qui nous concerne, le concerne. Et Jésus nous promet, demandez et il vous sera donné. Vous remarquerez le verbe, demandez et il vous sera donné. Jésus ne dit pas, demandez et on vous répondra, comme certaines administrations qui accusent réception, mais qui laissent dormir le dossier. Jésus nous assure, il vous sera donné. Il ne précise pas ce qui sera donné, mais il nous assure que notre demande ne restera pas dans le vide. Dieu agira, Dieu donnera. J'aimerais nous inviter à mettre ce mot au cœur de nos prières et au fond de nos cœurs. Dieu donnera. Dieu donnera. Il arrive que dans nos prières, nous soyons surtout avec le besoin d'exprimer nos besoins. Seigneur, j'ai besoin de toi. On crie à Dieu. Mais est-ce qu'on attend sa réponse ? Est-ce qu'on attend sa réponse ? Est-ce qu'on la guette, cette réponse ? Est-ce qu'on est dans l'expectative pour discerner la façon dont Dieu va donner ? En réponse à notre requête. Est-ce qu'on est dans la recherche pour voir quelle est la forme que peut prendre, que va prendre ce don de Dieu en réponse à notre requête? Je pense souvent aux chrétiens de Jérusalem qui priaient pour la libération de Pierre qui était emprisonné et qui ont traité de folle la servante qui leur disait que Pierre était en train de frapper à la porte de la maison. C'est humiliant. On demande et quand Dieu donne, on dit « mais non, ça ne va plus ». Mais c'est parfois nous. On demande, mais attend-on vraiment ? Dieu donnera, nous dit Jésus. Et je nous invite à, lorsque nous prions, avoir cette attention, cette attente, confiante aussi, de ce que Dieu voudra bien nous donner en réponse à nos prières, qui ne sont pas des lettres mortes vers lui. Demandez, nous dit Jésus, et l'on vous donnera. Et il vous sera donné. Et la formule « il vous sera donné » au passif, c'est une façon de dire « Dieu vous donnera, bien sûr ». Mais Jésus nous invite à une deuxième attitude. Non seulement nous invite-t-il à demander, mais il nous invite aussi à chercher. Cherchez et vous trouverez. Là, on est un peu plus dans l'effort, dans la persévérance aussi. Cherchez. Ce n'est pas toujours très, très facile, ce n'est pas toujours très agréable. Il y a de l'incertitude quand on cherche. Il y a des tâtonnements. On n'est pas sûr du résultat. On ne sait pas toujours vers où se diriger. Ça demande du temps. Ça demande des efforts. Il faut persévérer, même quand on n'avance pas beaucoup. Il faut parfois se creuser la tête, tourner et tourner encore une question. Parfois, il faut du temps, des décantations, des tentatives, des changements de piste, des retours. Cherchez. Et c'est une expérience que Dieu ne court-circuite pas dans notre vie. Il y a dans notre vie des temps où l'on cherche. Et ça a le mérite de nous impliquer. Et là encore, il nous faut bien lire le texte. Jésus ne nous dit pas « attendez et la solution viendra ». Il nous dit « cherchez ». Cherchez. Impliquez-vous. Consultez, lisez, interrogez, réfléchissez. Et Dieu vous aidera, vous soutiendra, vous conduira dans cette recherche. Vous trouverez. Et c'est amusant, étonnant à relever que ce n'est pas un passif cette fois-ci. Vous trouverez. C'est qu'il y a une joie à trouver. C'est qu'il y a une joie à aller au bout de son effort. Et Jésus, tout en indiquant que bien sûr, Dieu est là pour nous accompagner dans nos recherches et rend possible cet aboutissement, Jésus ne supprime pas le « vous ». Il me semble que cette catégorie de la recherche est un peu négligée lorsque l'on pense à la vie chrétienne. On demande, on prie, mais est-ce que l'on cherche? Est-ce que l'on assume que c'est aussi là notre place que d'être un chercheur? Quelqu'un qui avance, qui réfléchit, qui pense, qui s'engage. Je demande que Dieu me guide, je demande que Dieu m'éclaire. Mais est-ce que je cherche dans sa parole, par exemple, les principes directeurs qui pourront m'éclairer? Est-ce qu'on est juste dans la demande ou est-ce qu'on sait aussi aller dans la recherche, là où on veut vraiment avancer? Est-ce que j'interroge les uns les autres pour avoir leur éclairage? En face d'une difficulté que je rencontre, oui, je prie pour que Dieu m'aide. Mais est-ce que je cherche aussi à comprendre ce qui se passe? Pourquoi on en est là? À analyser, à trouver une solution? Ou est-ce que j'attends simplement que cela vienne et que cela soit donné? Et quand un besoin survient, est-ce que je m'engage activement dans la recherche de ce qui permettra de le combler? Ou est-ce que j'attends juste que les choses se fassent? Cherchez, nous dit Jésus. Alors, il nous faut apprendre à combiner, demander et chercher. Il faut apprendre à combiner le demander et le chercher. Mais Jésus nous dit que l'un n'exclut pas l'autre. On peut demander à Dieu la solution à un problème et chercher ce qui permettra d'aller de l'avant. Et faire cela, ce ne sera pas un manque de foi, mais ce sera une prise au sérieux de notre responsabilité à laquelle Jésus nous invite, lui qui nous demande, qui nous invite à demander, qui nous dit aussi « sachez chercher ». Et Dieu est là, nous assure Jésus, et ne nous abandonnera pas à nos recherches. Dieu est là et il ne se désintéresse pas de nos tâtonnements. Dieu est là, il nous soutient, il nous guide, il veille sur nous tel un père, sur son enfant, quand il le forme à la responsabilité. Cherchez. Dieu nous donne aussi le temps des cheminements, le temps de la recherche. Parfois, on a besoin de temps pour arriver à une certitude qui soit bien ancrée en nous et pas juste plaquée comme cela. Certaines vérités mettent du temps à être saisies, à pénétrer en nous. Certains changements demandent tout un cheminement aussi de notre part. Et que c'est bon d'entendre le Seigneur nous dire « cherche et tu trouveras ». Mais ce qui veut dire aussi « tu as le temps du cheminement là où tu en as besoin, mais tu pourras arriver au bout de ce cheminement et le Seigneur t'accompagnera dans ce cheminement ». Ça s'applique aussi à vous si vous cherchez Dieu. Si vous êtes aujourd'hui en recherche spirituelle, persévérez, demandez à Dieu de vous éclairer. Lisez l'Évangile, interrogez-vous sur Jésus, sur sa personne, sur sa venue, sur ce qu'il a fait pour vous, sur sa mort, sur sa résurrection, sur le salut qu'il vous offre, sur le pardon qu'il vous offre. Cherchez sincèrement et vous trouverez. Vous me chercherez et vous me trouverez, disait Dieu par son prophète. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Si vous cherchez le Seigneur, si vous cherchez vraiment ce qu'il a à vous donner, sachez que le Seigneur se laissera trouver par vous si vous le cherchez de tout votre cœur. Persévérez, continuez, demandez-lui, vous trouverez. Demandez, cherchez, nous dit Jésus, mais aussi frappez. Alors frapper, il ne s'agit pas ici des petites frappes, hein, de bagarre, mais il s'agit de persévérance lorsqu'il semble y avoir un obstacle. Il arrive qu'on se heurte à des portes fermées. On peut alors se décourager, on peut alors faire demi-tour, se résigner en se disant que c'est fini. Mais Jésus nous invite à frapper, à tenter quand même, à nous faire entendre, à insister peut-être. Peut-être est-ce la porte de Dieu qui nous semble fermée. Frappons, demandons-lui de nous ouvrir, de nous accueillir, de nous pardonner, d'intervenir pour nous. Peut-être est-ce une autre porte qui semble barrée. Frappons, persévérons, en demandant à Dieu de bien disposer la personne qui pourra nous ouvrir. Ne nous décourageons pas, en tout cas, s'il ne nous semble pas que tout est immédiatement ouvert. On parle parfois de dire on est conduit, si une porte se ferme, si une porte s'ouvre. Il ne faut juste pas réduire les choses à cela. Il arrive que nous soyons devant des portes auxquelles il faut frapper. Et c'est là ce que le Seigneur nous demande. Parce qu'il veut que nous manifestions vraiment cette volonté d'avancer. Ne nous décourageons pas si tout n'est pas immédiatement ouvert, ou s'il semble que Dieu met du temps à nous répondre. L'image d'une porte, en tout cas lorsqu'elle s'applique à Dieu, nous dit aussi quelque chose sur Dieu. Une porte ne s'ouvre que lorsque celui qui est à l'intérieur choisit de l'ouvrir. Est-ce qu'on peut dire quand même que frapper à la porte de Dieu, frapper à la porte de Dieu, c'est pas du tout la même chose que d'appuyer sur le bouton d'un distributeur automatique qui s'appellerait Dieu. Frapper à une porte, c'est laisser la liberté à celui qui est à l'intérieur de vous ouvrir quand il le veut, comme il le veut, s'il le veut. Et cette image que Jésus emploie nous rappelle que Dieu reste le maître, que Dieu reste le Seigneur, qui n'est pas à notre disposition. C'est lui qui ouvre la porte lorsque nous frappons. Mais Jésus a soin de nous rassurer. Il est. Il veut être pour nous un père. Sa maison est notre maison. Il aime nous avoir avec lui. Il a du plaisir à nous ouvrir la porte. Frappez et l'on vous ouvrira. Mais rappelons-nous qu'il est une porte à laquelle il nous faut frapper aujourd'hui. C'est la porte du salut, la porte de la vie éternelle. C'est aujourd'hui qu'il nous faut demander à Dieu de nous ouvrir la porte du salut. C'est aujourd'hui qu'il nous faut reconnaître que Jésus est mort pour nos péchés, demander à accueillir son pardon. C'est aujourd'hui qu'il nous faut le laisser devenir le Seigneur de notre vie. Jésus nous dit qu'un jour il sera trop tard et que la porte de son salut, de son royaume sera fermée. Luc 13, verset 25. Quand le maître de la maison aura fermé la porte et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper à cette porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» À ce moment-là, le Seigneur répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. » C'est aujourd'hui qu'il nous faut frapper à la porte du salut. Mais c'est aujourd'hui qu'il nous faut recevoir la promesse de Jésus. Frappez à cette porte du salut et Dieu vous ouvrira. Il l'ouvrira grande pour vous accueillir en sa maison. Et j'aimerais vous dire ce matin, si vous ne l'avez pas encore fait, frappez à la porte du salut de Dieu. Venez tel que vous êtes et le Seigneur vous ouvrira. Vous pourrez entrer dans ce salut, entrer dans la joie du Père. Trois verbes donc. Demander, chercher, frapper. Il conjugue la liberté de demander et notre implication dans la démarche. Ils invitent à la simplicité de la demande et à la persévérance dans la requête ou dans la recherche. Mais le Seigneur les fait suivre chacun d'une promesse. Il vous sera donné. Vous trouverez. Il vous sera ouvert. Tous ces verbes ont Dieu comme sujet implicite. Ce n'est pas un « on » personnel qui répond, c'est le Seigneur lui-même. Et Jésus nous assure que nos mouvements vers lui ne resteront pas lettres mortes ou démarches sans suite. Mais Jésus nous donne une autre assurance. C'est que Dieu est un vrai Père, un vrai Père. Et qu'il donnera, nous dit-il, de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Jamais il ne donnera une pierre si on lui demande du pain. Jamais il ne donnera un serpent si on demande un œuf. La clé des réponses de Dieu notre Père, c'est qu'il nous donne le genre de bonnes choses qu'un Père aimant aime donner à ses enfants. C'est ça la clé avec laquelle nous pouvons nous approcher de Dieu, demander, chercher, frapper. Et Jésus nous invite à méditer là-dessus. Ce que vous savez faire, vous, en tant que parents, ce que vous savez faire, combien plus Dieu saura le faire. Un Père aimant a plaisir à donner. On ne lui arrache pas ce qu'on lui demande. Notre Père céleste a plaisir à nous donner. On ne lui arrache pas ce qu'on lui demande. Un Père aimant a un vrai souci du nécessaire pour ses enfants. Il a un vrai souci que ses enfants ne manquent de rien. Notre Père céleste a ce même souci pour nous. Quand on lui demande du pain, mais c'est tout son souci pour nous que nous ayons ce pain. Un Père aimant assure la protection de ses enfants. C'est ce qui gouverne son action. Notre Père céleste a ce même souci de notre protection. Un Père aimant a aussi plaisir à faire plaisir. Un Père aimant voit le nécessaire, ce qu'il faut donner absolument. Mais il sait aussi ce qui juste fait plaisir. Et nous pouvons avoir confiance aussi que Dieu, notre Père, lit dans notre cœur et ne fera pas systématiquement le contraire de ce qui fait notre joie. On a parfois cette espèce de caricature de Dieu. Dieu, notre Père, sait ce qui nous fait plaisir et sait aussi, à certains moments, vouloir nous donner des choses qui correspondent à ce que nos cœurs désirent. Un Père aimant peut aussi vouloir faire des surprises. Noël approche. Vous, parents, nous, grands-parents, nous allons offrir à nos enfants des choses. On va parfois leur offrir ce qu'ils nous ont demandé. Et parfois, on aura envie de se décaler un petit peu et de faire une petite surprise qui dira aussi le petit plus que nous, on a envie de donner. Notre Père Céleste a aussi parfois cette façon de voir le don. Pas juste répondre aux commandes, mais nous donner des choses qui correspondent à son plaisir pour nous. Un Père aimant a le souci de former, d'éduquer, de faire grandir. Et parfois, c'est cela le bienfait. Et parfois, c'est cela dont nous avons vraiment besoin. Et notre Père Céleste, c'est aussi nous donner ce qui nous fera grandir, ce qui nous fera avancer. Un Père aimant ne cède pas à tous les caprices de ses enfants. Notre Père Céleste, c'est aussi nous dire non parfois, parce qu'on en a besoin, parce que c'est structurant. Un Père aimant, parfois, fait attendre, teste la volonté, forge la volonté, la persévérance de son enfant, l'invite à lui faire confiance, envers et malgré tout. Notre Père aussi veut tester notre volonté, la former, former notre persévérance, nous apprendre la confiance dans ces choses où il faut peut-être attendre, où il faut avancer justement en confiance. Un Père aimant veut faire grandir, veut éduquer. Et c'est pourquoi il ne mâche pas toute la tâche. Il met en situation où il faudra se battre, se dépasser, en prendre sur soi. Notre Père Céleste, pareillement, nous met dans cette situation-là parfois. Un Père aimant fait tout cela. Et c'est ainsi et bien mieux encore que Dieu, notre Père, agit envers nous, avec la même liberté qu'un Père aimant, avec le même souci qu'un Père aimant, avec les mêmes objectifs de nous faire grandir, avec le même amour qu'un Père aimant. On réduirait tellement la relation, terriblement la relation entre un père et ses enfants si on la limitait à une sorte de jeu de donner, de demander, donner, recevoir. Tellement plus est impliqué dans une relation de père à l'égard de son enfant. Et Jésus, en plaçant devant nous cette image de Dieu comme notre Père Céleste, veut nous inviter à regarder plus large. Dieu veut être pour nous un vrai Père, un Père aimant, un Père bienveillant, un Père structurant. Alors lui, demandons. Alors lui, cherchons lorsqu'il faut chercher. Alors lui, frappons lorsqu'il faut frapper à la porte. Acceptons ces invitations à la responsabilité, à la recherche, à la persévérance. Mais gardons rivés au cœur les promesses que nous donne Jésus. Et par-dessus tout, ayons confiance, gardons confiance en acceptant que Dieu nous forme comme un père aimant forme ses enfants. Dieu nous aime comme un père. Marchons avec cette confiance, cette assurance, cette soumission, cette joie de nous savoir aimer. Amen.